Bonjour, Khadija Elmadi, je prononce bien ?
Vous prononcez parfaitement.
Vous avez un prénom qui est, j'ai envie de dire, prédestiné. Vous êtes marocaine, je pense, d'origine, c'est
oui,
ça
tout à fait. Voilà.
Et c'est vrai que Khadija Elmadi, c'est déjà deux prénoms. Quand on les met côte à côte, ça donne peut-être la vision d'un grand destin, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Vous n'avez pas exploré ce côté-là ?
Bah, Khadija, c'est le nom de la femme du prophète Mahomet, et Elmadi, c'est le messie musulman. Voilà. Donc ça fait quand même.
Ça fait beaucoup.
Bon, hein, comme on dit, on n'a pas choisi, mais ouais. Le Elmadi, en tout cas, quand j'étais petite à l'école, c'était Ah, Elmadi, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'est-ce qu'elle m'a raconté ?
D'accord.
Donc peut-être que la vocation de conter et de raconter, oui. Alors après, la figure de Khadija, c'était une chamelière puissante. J'ai pas énormément de chameaux à ma disposition pour venir en Amignon, mais il y a quelque chose du caravansérail, en tout cas dans le lieu dans lequel je jouais.
Vous donnez à voir une composition qui s'appelle Mamakan, vous allez nous en parler, le chant de la terre Lakota, et c'est l'une des 13 créations que vous avez pour projet de monter, et vous disiez c'est le projet de toute une vie. Alors pourquoi 13 créations déjà, et pourquoi s'être relancé ce défi ou...
Ah ben, oui, tout à fait. Au départ, je pensais ne jouer qu'un spectacle. Et puis un jour, au moment où j'étais dans la gestation de ce projet, j'ai fait une formation de vente de spectacles au CIFAB à Montreuil. Et la formatrice me demande d'aller faire des recherches sur les grands-mères, les transmissions, enfin ce projet, et les Lakota. Et en cherchant sur Internet, je tombe sur le conseil des 13 grands-mères, The Council of the 13 Grandmothers. Et je vois 13 grands-mères autochtones appartenant à des communautés, étant leaders de ces communautés, étant des femmes qui accompagnent d'un point de vue social, mais aussi pour aider des gens à sortir de la toxicomanie. Enfin voilà, elles étaient très engagées et elles arrivaient à la rencontre du Dalai Lama sur des fauteuils roulants poussant des cris de coyote. J'ai trouvé ça suffisamment, comment dire, décalé et déconcertant et en même temps beau pour avoir envie de m'y intéresser et puis d'en parler à cette formation. Et là, immédiatement, on m'a dit, tu vas faire 13 récits. Je suis non, moi je suis partie pour faire un récit, je vais aux États-Unis, les Amérindiens m'intéressent. Non, tu vas faire 13 récits, ça c'est ton premier opus. Puis en levant la tête, toutes les femmes qui étaient présentes à cette formation faisait oui, elles opinaient de la tête. Et en masque, quand on travaille avec un masque, on travaille avec un principe. Et ce principe, quand il soulève une adhésion, tous les visages en face, tous les corps réagissent. Et là, face à Moa, Khadija Elmadi, cette idée de porter 13 récits, j'avais 40 femmes qui faisaient oui avec la tête. Donc sans trop savoir ce à quoi ça m'engageait ni vers quoi j'allais me diriger, je me suis dit là il y a quelque chose qui dans le vivant dit oui, alors je vais répondre à ce oui que j'ai en face de moi. Après le chiffre 13, c'est le chiffre de la mort, hein. C'est aussi très à table, c'est un chiffre un peu particulier. Et c'est vrai que ce projet consiste à aller peut-être à l'endroit où je n'irai jamais. Aller à la rencontre de ce qui peut-être ne fait pas partie de ce qui est connu. Et je me suis rendu compte, dans tout ce processus, il y a des portes qui grincent, qui s'ouvrent, qui se referment, parce qu'il y a un spectacle qui aussi va se jouer juste après. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je dépassais une porte qui était une porte de peur, c'est le moment où je commençais à apprendre, à découvrir, à sortir du système établi dans lequel je vivais et à m'ouvrir au monde. Du coup, ce chiffre 13, bah, il a cette symbolique peut-être d'accepter la mort, non pas tel qu'on peut l'imaginer de manière macabre, mais d'accepter de lâcher des choses pour en vivre d'autres.
Et alors là, donc, pour Mamakan, vous êtes allée en Terre Lakota et vous avez rencontré des Indiens.
Alors, eux n'aiment pas du tout qu'on les appelle des Indiens. Ils disent des natifs, on est ceux qui sont nés sur ces terres. Mais je réagis comme ça et je vous dis ça, c'est pas forcément très sympathique pour engager une conversation, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire, je suis arrivée avec des mots, avec des termes, avec une certaine vision des natives, et eux m'ont, entre guillemets, recadré. Ils m'ont expliqué que j'arrivais dans une réserve, un camp de prisonniers, que leur statut n'était pas le même que celui des autres citoyens américains. Et moi qui venais chercher ce que je considérais comme une sorte de beauté accessible, je me suis retrouvée face à des personnes qui m'ont fait comprendre que les contes, les chants, les traditions, c'est des outils de résilience pour lutter contre la pulsion de mort. Et au départ, on m'a vraiment expliqué que je n'avais rien à faire là, que ce n'était pas ma culture. J'ai pas trouvé ça légitime, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me parlait, je suis restée. Et une semaine après, une grand-mère m'a ouvert sa porte et toutes les portes se sont ouvertes en cascade derrière. Il y a une multitude d'histoires que je ne raconte pas forcément, mais j'essaye de garder l'énergie de ce que j'ai perçu et ressenti pour le transmettre. Et à cet égard, pour moi, l'acte théâtral, c'est un acte vivant, c'est un acte de transmission du vivant.
Ouais, c'est ce que moi j'ai ressenti, cette nécessité de transmettre, parce qu'en fait, c'est un enchevêtrement de contes. Mais c'est plus que ça, parce que vous nous emmenez finalement dans votre univers, dans cet univers-là, et on sent cette volonté de transmettre, effectivement. Et puis vous avez aussi des objets de pouvoir magiques, peut-être, que vous avez épuisés là-bas, non ?
Alors, c'est marrant, parce que le mot pouvoir, c'est vraiment le mot que j'aime le moins. Et en même temps, quand j'entends pouvoir, c'est aussi la possibilité de faire, la possibilité de manifester ou de rendre visible. Ce projet me donne la possibilité de... Et c'est vrai qu'un tambour donne la possibilité de chanter, la possibilité de rêver, la flûte de la même manière, la possibilité d'exprimer de manière musicale l'indicible. Il y a une pierre, effectivement, que j'ai trouvée là-bas sur la route. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, oui. Mais vraiment, il y a une espèce de petit sourire avec un clin d'œil. Voilà, après, chacun en fait ce qu'il veut. Parfois, quand je le montre dans le public, il y en a qui voient le sourire, d'autres qui ne le voient pas. Et je pense que ça fait partie de notre quotidien. Il y a des choses qu'on voit, parce qu'on a réussi à les nommer, à les percevoir, à les ressentir. Et d'autres qui passent complètement de manière invisible devant nos yeux. Alors, c'est vrai qu'en allant là-bas, j'ai porté mon attention sur ce que je ne vois pas peut-être ici et que je perçois maintenant, le passage d'un oiseau, le cri d'un enfant, comme c'était le cas pendant la représentation. Là, je ne peux pas faire semblant de ne pas entendre une petite fille pleurer, alors que ce texte s'adresse à une petite fille. Donc je suis obligée de composer, c'est-à-dire de créer avec tous les éléments de la réalité.
Oui, c'est ça, on sent que vous êtes en interaction.
Le masque, c'est un objet d'improvisation. Joël qui est là, Richetta qui dirige le lieu, une grande praticienne du masque, c'est elle qui m'a invitée à venir ici.
Alors peut-être, comme c'est votre premier spectacle et que vous allez en avoir d'autres, peut-être que vous pouvez nous parler du prochain qui va être, je crois, en rapport avec le Maroc.
Alors je suis d'origine marocaine, d'origine berbère, du sud du Maroc. Et lorsque je suis arrivée en Terre Lakota, on m'a dit, si tu es venue ici pour nous prendre nos histoires, c'est que tu ne connais pas la tienne. Alors rentre chez toi. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie dans le sud marocain avec ma mère. Et là-bas, on s'est retrouvé avec une multitude de femmes dans le village qui m'ont conté et raconté l'histoire du village, celle que je ne connaissais pas parce que je suis issue de l'immigration et je suis née ici. Et c'est vrai que ce projet, c'est aussi apporter à des enfants qui ont été coupés de la nature, coupés de leurs racines, coupés de la fragilité, de la sensibilité, de leur offrir à nouveau ces liens, ces connexions à travers ces récits et ces contes. C'est peut-être aussi pour moi, la petite fille intérieure que je suis, que je fais ce voyage.
Tout en programme.
Tout en programme.
Du coup, vous jouerez peut-être l'année prochaine à Avignon ou c'est déjà joué ?
L'année prochaine, ce sera Mamakan Berbère.
Ouais. Berbère, d'accord.
Et peut-être aussi encore des représentations de Mamakan Lakota en alternance. Okay. Je ne sais pas.
Très bien.
J'aime bien ne pas savoir.
Oui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.